franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par l'attentat déjoué et l'arrestation de deux hommes hier à Marseille.
Terrorisme, fin de campagne sous la menace, titre Libération à sa une. Alors le procureur de Paris, François Molins, a pris soin hier de préciser que si ces deux hommes préparaient une attaque imminente, ni les cibles, ni les dates envisagées n'apparaissaient encore clairement. Mais ce matin, la presse embrait rapidement sur ce retour au réel, comme dit l'opinion, sur la menace terroriste qui pèse sur la présidentielle, titre Le Figaro. Le Figaro qui balaie les précisions du procureur et qui tout de go sur une double page accrédite la thèse que c'est François Fillon qui a été visé, avec pour seul indice pour l'instant la une du Monde où figurait une photo du candidat retrouvé au domicile des deux hommes. Aujourd'hui en France, Le Parisien reprend avec précision l'enquête qui a conduit à leur arrestation. Des interpellations qui signaient la fin d'une course contre la montre enclenchée il y a une dizaine de jours, nous raconte-t-il, et qui a mobilisé des centaines de policiers du renseignement dans toute la France. Dans La Croix, Guillaume Goubert salue l'action remarquable des services antiterroristes. Le fait que trois candidats aient été prévenus des risques qu'ils pouvaient courir permet de souligner qu'il y a une belle illustration de l'existence d'une collectivité nationale qui dépasse tous les clivages, écrit-il. Ce n'est pas interdit non plus, ajoute-t-il, de souligner l'utilité des services publics, notamment de sécurité, que financent les contribuables. En ces temps d'affrontements partisans, parfois surjoués, il est bon de s'en souvenir. Mais tout le monde ne joue pas l'Union nationale sur le sujet. L'édito du Monde, daté d'aujourd'hui, fustige la frontière de l'indécence franchie par Marine Le Pen, qui lundi soir, avant donc l'information sur ce dernier attentat déjoué, affirmait « Avec moi, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, français grâce au droit du sol. Avec moi, il n'y aurait pas eu les attentats du Bataclan, parce que les terroristes ne seraient pas rentrés dans notre pays. La ligne rouge d'ordre moral est franchie », écrit Le Monde, qui rappelle 1. L'absurdité et la fausseté de telles affirmations. 2. Qu'aux États-Unis après les attentats du 11 septembre ou au Royaume-Uni après ceux de Londres en 2005, jamais l'opposition ne s'était permis d'utiliser de telles tragédies.
À 4 jours du premier tour, dernier soutien pour les candidats en campagne, dernier meeting et dans les journaux, derniers éditos.
Notamment dans les hebdos dont c'est la dernière parution avant le jour J. Si Pierre Ciankowski dans Les Inrecuptibles se contente d'un « voter », voter pour dire que nous valons plus que cette parodie à laquelle nous avons eu droit pendant cette campagne, entre balles minables des trahisons et discours répugnants de ceux qui font de la haine leur seul fond de commerce. Christophe Barbier dans L'Express se veut plus didactique et son édito s'appelle carrément « Les idées claires ». Si vous souhaitez un choc libéral, votez François Fillon. Il vous faut néanmoins, pour choisir ce bulletin, considérer que l'éthique est secondaire en politique. Si vous croyez en la réunion des bonnes volontés, votez Macron. Mais si vous redoutez les atermoiements d'un exécutif aux majorités incertaines, ne votez pas pour lui. Si vous êtes en colère, votez Le Pen, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Mais attention, prévient Barbier, voter pour eux, c'est s'offrir à une démocrature. Les idées claires de Christophe Barbier, quitte à hérisser le poil de ceux qui n'ont pas tout à fait la même lecture que lui des candidats en présence. Dans Charlie Hebdo, Rhys a la nostalgie des premiers tours d'autrefois. Ah, c'était le plus agréable, se souvient-il. C'était pour le fun, pour se donner le petit frisson de jouer avec le feu sans que ça puisse tirer à conséquence. Mais cette époque bénie est terminée depuis 2002. Gérard Biard, toujours dans Charlie Hebdo, s'agace lui de cette urne qui rend fou, où l'électeur doit désormais s'improviser stratège, se transformer, dit-il, en un croisement entre Alain Duhamel et Marcel Ipsos. Pour échapper à ce casse-tête insoluble, conseille-t-il, la solution c'est le retour aux fondamentaux, voter selon sa conviction. Ouais, mais comment ne pas s'interroger sur la conviction du voisin qui pourrait tout faire capoter, s'amuse-t-il. Eh oui, on n'en sort pas. Dans Le Canard enchaîné, le Fred Touron croque un homme qui reste au lit à l'heure du choix. Sa femme lui demande « Tu ne viens pas voter ?» Il répond « Non, j'essaie l'abstention utile. »
Dans la presse encore, Hélène, portrait croisé ce matin.
D'un homme à nos côtés tous les matins, Patrick. Mais sans doute avez-vous en cours encore des choses à apprendre sur lui. Il en rougit déjà, Bernard Guetta, éminent chroniqueur à France Inter, qui a donc superbement réussi, mais qui a une particularité, c'est d'avoir un demi-frère qui a tout aussi bien réussi dans un domaine diamétralement opposé. Bernard et David Guetta, le jour et la night, portrait croisé dans Vanity Fair. 16 ans les séparent, c'est de la sème sans se comprendre, écrit Jacqueline Rémy qui signe l'article. Ils se connaissent intimement, sans guère se fréquenter, ils n'ont pas vécu ensemble. Ils ont pourtant bien des points communs et n'ont cessé de se cogner l'un contre l'image de l'autre. L'un voulait être roi du monde, il est devenu le DJ le plus récompensé de la planète. L'autre rêvait d'être roi du Monde, le journal. Il est aujourd'hui l'un des éditorialistes les plus écoutés de France. Retour donc sur leur parcours respectif, très politique, très jeune pour Bernard. En 68, c'est vous Bernard qui mettez en grève les bahuts du Quartier Latin.
Ah, j'ai une photo, oui.
Edgar Faure.
Je sais pas si elle est dans Vanity Fair, mais j'en ai une.
Tiens, moi
une
pas.
Très vieille, je vous la montrerai.
Ah ouais. Ben Patrick va vous passer la photo. Edgar Faure, en tout cas, appelle chez Bernard. Et quand il se présente, il dit « C'est le ministre de l'Éducation nationale ». Sa petite sœur lui rétorque « Et moi, je suis le pape ». Et elle lui raccroche au nez. David, donc, il invente très vite, lui, une profession que personne ne comprend dans sa famille. DJ, contraint de commenter en classe un article de son frère, une respectabilité dont il se servira plus tard pour épater les policiers de la mondaine, paraît-il très admiratif de Bernard. Et une célébrité, Bernard le disait il y a quelques instants, qui va basculer au début des années 2000. La journaliste raconte les deux facettes d'une même ambition, absolue, éreintante, paraît-il. Elle raconte joliment les itinéraires inversés de deux frères élevés dans des familles recomposées, la figure du père, la place de l'engagement politique puis journalistique pour l'un, celle de la musique pour l'autre. Elle raconte l'histoire d'une fratrie qui n'a rien en commun et tout. Elle dévoile un peu l'homme que vous écoutez tous les matins.
On termine, Hélène, par une naissance.
C'est un premier cri poussé dans ce magma. Bienvenue dans les décombres. Danser dans un pays qui s'effondre. N'empêche. Nous sommes en joie, nous sommes en traque, nous sommes en vrac. Boxons dans nos cœurs, puisque boxons est désormais dans vos oreilles.
Cette voix, ben oui, vous la reconnaissez, c'est Pascal Clark qui a donné naissance hier à Boxon, premier site payant de podcast, reportage long sur un cyclo-plombier par exemple, sur le quotidien d'un petit maire ou sur Noël, fille de bagnard, écriture soignée, journalisme engagé, mise en son en majesté, Boxon est né hier, longue vie.
Longue vie à Boxon, merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse et du web donc, puisque Boxon c'est un média en ligne, évidemment.